Bonsoir, Kiola, good evening, vous êtes sur Amuse-Gueule. Je prends une pomme, je la mets sur la table, je me mets dans la pomme, je suis bien. Tous ici, chez vous, nous avons fait cette expérience, chacun chez soi, chacun à un moment de sa vie, heureux ou douloureux. Et si nous l'avons fait, cette expérience, c'est parce que quelqu'un nous a précédé, quelqu'un nous a montré la voie, quelqu'un a ouvert le bouchon du tunnel. Et ce quelqu'un, c'est Henri Michaud, à qui nous consacrons toute l'émission de ce soir, en compagnie d'Anne-Sophie. Anne-Sophie, bonsoir.
Bonsoir.
Et de Blandine. Blandine, bonsoir.
Bonsoir.
On parlera donc de poésie, une émission placée sous le signe de la poésie, de l'aventure intérieure. On parlera des relations de Michaud avec la drogue. On parlera
de plume.
Et d'art et de ses dessins. Mais tout de suite, on écoute La Ritournelle, c'est Sébastien Tellier. Je dînais en ville samedi soir où j'ai rencontré un jeune couple de Français tout fraîchement arrivé et je leur glisse mon programme du week-end dans cette émission sur Henri Michaud et à les entendre je me suis rendu compte que la bohème c'était fini, que les Lilas étaient fanés parce que alors qu'ils ont de beaux métiers, que ce sont des Parisiens qui vivent à Montmartre, ils n'ont jamais entendu parler d'Henri Michaud, d'où l'urgence absolue de cette émission. On va essayer de vous le faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, ou de vous le faire relire si vous l'avez un peu délaissé depuis votre adolescence, parce que c'est, en tout cas, c'était mon expérience, c'est vraiment quelqu'un qu'on, enfin, comme la poésie en général, je pense que si on ne l'a pas découverte à l'adolescence, après c'est trop tard, ça ne viendra plus jamais. C'est un peu comme le jazz ou le cricket. Non ?
Surtout le cricket.
Surtout le cricket. Non, mais oui. Je suis d'accord que c'est une découverte de l'adolescence, de jeunes adultes. Moi, j'ai vu ça quand il était étudiant. Et c'est vrai que c'est un moment où la vie s'ouvre. C'est bien d'avoir quelqu'un qui vous dit que jamais rien n'est stable. Rien. On n'a pas envie de cette stabilité qui va nous, peu à peu nous accrocher les pieds dans le béton. Et là, effectivement, c'est une liberté à vie que lui a su garder et jusqu'à la fin de sa vie. Et je crois qu'il est hautement lié à cette période de la vie. Je trouve que c'est un éternel adolescent, un éternel jeune adulte avec ses rêves et son désir de liberté profonde.
C'est un reproche que Simenon, un autre Belge, lui faisait. Il avait écrit à propos de lui. Personnellement, je ne le compterais pas dans les grands écrivains, enfin dans les grands créateurs, parce qu'il y a dans son œuvre quelque chose de précieux, d'artificiel. Tiré d'un pied de table où toute une poésie ne me touche pas. C'est pour moi de l'amateurisme. Il se retranche dans un monde de rêve où l'homme n'a rien à voir. Oui, on est dans un monde adolescent là, où les choses ne sont pas marquées par.
Mais son humour, sa façon de détourner la réalité, je trouve que quand on a notre âge, ça fonctionne toujours, ça nous interpelle toujours, ça nous fait toujours sourire. Peut-être pas autant qu'il y a quelques années, mais en tout cas, il touche au malaise aussi, qui est aussi quelque chose qui est propre à l'adolescence. Et il touche à quand même des choses essentielles de la vie. Et donc en ça, comme tout écrivain de valeur, il nous touche tous, je pense.
Donc on retourne dans l'adolescence, retournons à l'école. Et commençons les choses comme il faut commencer. avant de laisser parler Anne-Sophie, mais après peut-être sa biographie, Anne-Sophie.
Non, je voulais juste ajouter que oui, il fait tout ça, Blandine, mais pour moi, Michaud, c'était un pont entre l'art et la poésie. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, quoi. Quand tout le monde était après Rimbaud, moi j'étais après Michaud et Desnos, ou Desnos, je sais pas comment on dit.
Desnos.
Desnos. Et Henri Michaud, oui, c'est je trouve qu'il est capable de passer d'une façon de s'exprimer au niveau artistique, à écriture, et il passait de l'un à l'autre avec une facilité déconcertante.
Et même dans son écriture, hein, il passe de la prose à la lettre, à la poésie. Oui. Il cherche justement, il brouille les pistes en permanence, et c'est très très difficile de donner un style à un de ses livres.
Et pourtant, tout est marqué, oui, de sa personnalité, de sa sensibilité. Il n'y a pas un dessin ou un texte dont il ne saute pas aux yeux qu'il soit de lui, de Michaud.
Oui.
On va peut-être mettre. Tu m'avais recommandé cette musique.
Donc,
Pierre-Henri, intérieur, extérieur.
En dehors du fait que ce soit une musique que j'aime énormément, j'adore, parce que chez Michaud, il y a ça, il y a l'intérieur et l'extérieur, l'intériorité et le fait de découvrir l'extérieur et en même temps cette vie intérieure qui est si importante, et on l'a vu notamment dans ses écrits de voyage, et donc je trouve que ça lui ressemble énormément. Et puis bon, c'est de la musique électroacoustique, difficile à écouter pour pas mal de gens, que personnellement j'adore, mais en tout cas qui va très très bien avec Michaud à mon avis, autant par la musique elle-même que par l'idée de l'intérieur-extérieur.
Allez, on t'écoute.
Donc cette biographie, c'est lui qui l'a écrite, et ça s'appelle « Quelques renseignements sur 59 années d'existence ». 1899, 24 mai, Namur. Naissance dans une famille bourgeoise, père ardennais, mère wallonne, un des grands-parents qu'il n'a pas connu d'origine allemande, son frère, son aîné 3 ans, lointaine ascendance espagnole. 1900 à 1906, Bruxelles. Indifférence, inappétence, résistance, inintéressé. Il boude la vie, les jeux, les divertissements et la variation. Le manger lui répugne, les odeurs, les contacts. Sa moelle ne fait pas de sang, son sang n'est pas fou d'oxygène. Anémie. Rêve sans image, sans mots, immobile. Il rêve à la permanence, à une perpétuité sans changement. Sa façon d'exister en marge, sa nature de gréviste, fait peur ou exaspère. On l'envoie à la campagne. Hameau Pute Grachet, pardon. Oui, c'est ça, Pute Grachet, de 1906 à 1910. Hameau situé dans la Campine. 5 ans en pension. Pensionnat pauvre, dur, froid. Études en flamand. Ses condisciples sont fils et filles de petits paysans. Secrets. Retranché, honteux de ce qui l'entoure, de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui, depuis sa venue au monde, l'a entouré. Honteux de lui-même, de n'être que ce qu'il est, mépris aussi pour lui-même et pour tout ce qu'il connaît jusqu'à présent. Il continue à avoir le dégoût des aliments, les fourre enveloppés de papier dans ses poches et, une fois dehors, les enterre. 1911 à 1914, Bruxelles. Retour à Bruxelles. Sauvé. Il préfère donc une réalité à une autre. Les préférences commencent. Attention. Tôt ou tard, l'appartenance au monde se fera. Il a 12 ans. Combat de fourmis dans le jardin. Découverte du dictionnaire. Des mots qui n'appartiennent pas encore à des phrases. Pas encore à des phraseurs. Des mots et en quantité. Et dont on pourra se servir soi-même à sa façon. Études chez les jésuites. Avec l'aide de son père, il s'intéresse au latin, belle langue, qu'il sépare des autres, le transplante. Son premier départ, aussi le premier effort continu qui lui plaise. Musique, un peu. 1914-1918, Bruxelles. 5 ans d'occupation allemande. Première composition française, un choc pour lui. Tout ce qu'il trouve en son imagination, un choc même pour le professeur qui le pousse vers la littérature. Mais il se débarrasse de la tentation d'écrire qui pourrait le détourner l'essentiel. Quel essentiel ? Le secret qu'il a depuis sa première enfance soupçonné d'exister quelque part et dont visiblement ceux de son entourage ne sont pas au courant. Lecture en tous sens, lecture de recherche pour découvrir les siens, et part dans le monde, ses vrais parents, pas tout à fait, parents non plus cependant, pour découvrir ceux qui peut-être savent. Hello, Ruisbroeck, Tolstoï, Dostoïevski. Lecture des vies des saints, des plus surprenants, des plus éloignés de l'homme moyen. Lecture aussi des excentriques, des extravagants, ou des jeunes Belgiques à la langue bizarre qui voudraient plus bizarre encore. Après son baccalauréat, l'université étant fermée à cause de l'occupation, 2 années de lecture, de bricolage intellectuel. 1919, prépare le PCB. Ne se présente pas à l'examen, abandonne la médecine. 1920, Boulogne-sur-Mer. Embarque comme matelot sur un 5-mâts schooner. Rotterdam. Deuxième embarquement sur le victorieux. Un 10 000 tonnes, une belle ligne que les Allemands viennent de livrer à la France. On est 14 dans un petit poste d'équipage à l'avant. Camaraderie étonnante, inattendue, fortifiante. Brême, Savannah, Norfolk, Newport, News, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Au retour à Rio, l'équipage qui se plaint d'être mal nourri refuse de continuer et en bloc se fait porter malade. Par solidarité, ils quittent avec eux le beau navire, manquant ainsi de la sorte le naufrage qui aura lieu 20 jours plus tard au sud de New York. 1921, Marseille. Le désarmement mondial des bateaux, export des troupes et de vivres, est à son maximum. Impossible de trouver un engagement, la grande fenêtre se referme, il doit se détourner de la mer. Retour à la ville et aux gens détestés, dégoût, désespoir. Métiers et emplois divers, médiocres et médiocrement exercés. Sommet de la courbe du raté. 1922, Bruxelles. Lecture de Mal d'Aurore, sursaut, qui bientôt déclenche en lui le besoin longtemps oublié d'écrire. Première page, Franz Hellens, puis Pollan, y voient quelque chose. D'autres n'y voient rien. Toujours réticent, il n'aimerait pas devoir écrire. Ça empêche de rêver, ça le fait sortir. Il préfère rester lové. Belgique définitivement quittée. 1924, Paris. Il écrit, mais toujours partagé. N'arrive pas à trouver un pseudonyme qui l'englobe. Lui, ses tendances et ses virtualités. Il continue à signer de son nom vulgaire, qu'il déteste, dont il a honte. Pareil à une étiquette qui porterait la mention « qualité inférieure ». Peut-être le garde-t-il par fidélité au mécontentement et à l'insatisfaction. Il ne produira donc jamais dans la fierté, mais traînant toujours ce boulet qui se placera à la fin de chaque œuvre, le préservant ainsi du sentiment même réduit de triomphe et d'accomplissement. Klee, puis Ernst, Chirico, extrême surprise. Jusque-là, il a haïssé la peinture et le fait même de peindre, comme s'il n'y avait pas encore assez de réalité, de cette abominable réalité, pensait-il. Encore vouloir la répéter, y revenir. Emploi divers. Quelque temps dans une maison d'édition au service de la fabrication. 1927, Quito. Voyage d'un an en Équateur, avec et chez Gangotena, poète habité par le génie et le malheur. Il meurt jeune et après, lui, ses poèmes, la plupart inédits, embrasés dans un incendie d'avion, disparaissent à jamais. 1928, Paris. 1929, mort de son père. 10 jours plus tard, mort de sa mère. Voyage en Turquie, Italie, Afrique du Nord. Il voyage contre... pour expulser de lui sa patrie, ses attaches de toutes sortes et ce qui s'est en lui, malgré lui, attaché de culture grecque ou romaine ou germanique ou d'habitude belge. Voyage d'expatriation. Le refus pourtant commence à céder un peu au désir d'assimilation. Il aura beaucoup à apprendre, à s'ouvrir, ce sera long. 1930-1931, en Asie. Enfin son voyage. Les Indes, le premier peuple qui, en bloc, paraissent répondre à l'essentiel, qui dans l'essentiel cherche l'assouvissement, enfin un peuple qui mérite d'être distingué des autres. L'Indonésie, la Chine, pays sur lesquels il écrit trop vite, dans l'excitation et la surprise, émerveillé d'être touché à ce point, pays qu'il lui faudra méditer et ruminer ensuite pendant des années. 1932, Lisbonne, Paris. 1935, Montevideo, Buenos Aires. 1937, commence à dessiner autrement que de loin. En loin. Première exposition, Galerie Pierre à Paris. 1938-1939, Meudon s'occupe de la revue Hermès. 1939, Brésil, Minas Gerais et État de Rio. 1940, janvier, retour à Paris. En juillet, l'Exode, Saint-Antonin, ensuite le Lavandou. 1941-1942, le Lavandou avec celle qui sera bientôt sa femme. 1943, retour à Paris, occupation allemande, la seconde. 1944, mort de son frère. 1945, affaibli par les restrictions alimentaires, sa femme contracte la tuberculose. Ensemble à Cambo, amélioration. 1947, presque la guérison. Voyage de convalescence et d'oubli des maux en Égypte. Février 1948, mort de sa femme, des suites d'atroces brûlures. 1951-52, il écrit de moins en moins, il peint davantage. 1955, naturalisé français. 1956, première expérience de mescaline. 1957, exposition aux États-Unis, à Rome, à Londres. Se casse le coude droit, ostéoporose, main inutilisable, découverte de l'homme gauche. Guérison et maintenant, malgré tant d'efforts, en tous sens, toute sa vie durant pour se modifier, ses os, sans s'occuper de lui, suivent aveuglément leur évolution familiale, raciale, nordique.
Anne-Sophie, tu connais deux artistes qui...
Une
artiste qui se sont inspirés de l'œuvre de Michou pour dessiner, pour peindre.
Oui, pour dessiner. C'est une artiste française qui s'appelle Marion Jdanoff. Marion, si tu nous écoutes, je suis désolée d'écorcher ton nom. Donc, je vais vous parler de son travail, et puis, enfin, je vais vous parler d'elle, et puis je vais vous parler ensuite de son travail, et je vous invite à aller voir sur le site. On mettra certainement un lien aussi. Je vous invite à aller voir les dessins. Donc, je voudrais vous parler de Marion Jdanoff, une artiste française qui travaille et vit à Berlin. Alors Marion travaille aussi en collaboration avec Damien Tran, qui lui aussi a ses propres créations. Et quand ils collaborent, ils signent leur travail sous le nom de Pas le froid. Et vous pouvez retrouver leurs créations sur le site paslefroid.net. P-A-L-E-F-R-O-I. Marion et Damien se sont rencontrés à Berlin en 2011. Et partagent le même intérêt pour la sérigraphie. Ils ont créé Pas le froid pour sceller leur collaboration en 2013. Ils créent des sérigraphies, des illustrations, éditent leurs livres et zines d'art. L'un, Damien, est plus abstrait et l'autre, Marion, est plus narrative et dans la figuration, ce qui crée un résultat très riche. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail de Marion, parce qu'elle a commis une magnifique série de dessins de Henri Michaux, d'après les descriptions qu'il en donne dans son livre « La nuit remue ». Ces dessins sont présentés dans un livre de 16 pages, édité en exemplaire limité en 2016. Malheureusement, tous vendus, donc je n'ai pas pu m'en procurer un. Mais on peut voir certains dessins sur leur site. J'ai donc envoyé un email à Marion et je lui ai posé quelques questions sur elle, sur son travail et sur ce projet. J'ai décidé de réécrire cette correspondance puisque je ne l'ai pas enregistrée comme interview au téléphone. Et j'ai essayé d'être assez fidèle à ce qu'elle m'a écrit. Alors, qui est Marion ? Marion donc, se présente comme sérigraphe, illustratrice, éditeur, ce qui est un parcours plutôt accompli, surtout qu'elle est autodidacte et qu'elle n'a pas fait d'école d'art, mais elle a fait des études en sociologie à Nantes. Par contre, elle a toujours dessiné. Et par son implication dans le milieu nantais de la musique indépendante, elle a été sollicitée pour des affiches de concerts, des pochettes d'albums, ce qui l'a encouragée à persévérer. Au passage, je tiens à signaler qu'on peut découvrir sur le site, entre autres, une affiche de concert pour les groupes Besoin d'aide, d'aide D-E-A-D, et La Mamé La Muerta. Je vous passerai, si on a le temps, quelques morceaux de la scène rock de Nantes, puisque ça a inspiré Marion, et que ça m'est cher aussi, puisque je suis aussi de Nantes. Voilà. Donc c'est aussi par ce biais-là que Marion a découvert la sérigraphie et la possibilité de réaliser des multiples et non simplement des dessins originaux en un exemplaire. Elle trouve que c'est une solution intéressante qui lui permet de distribuer son travail plus facilement et le rend aussi plus accessible à tout type de budget. Marion pense qu'il est assez illusoire, sans avoir fait d'école d'art, d'espérer trouver sa place dans le marché de l'art. L'édition et la sérigraphie lui permettent de vivre ce qu'elle fait de manière relativement autonome et à une échelle qui lui convient. Excusez-moi. Alors, sa démarche artistique. Je lui ai demandé en quoi consiste sa démarche artistique, ce qui est une vaste question à poser à une artiste, mais bref. Et ce à quoi elle a proposé une réponse rapide et franche, elle a dit « J'explore des formes décousues de narration ». Ce qui était tout à son honneur, je trouve que résumé à ce point-là, c'est très bien. Marion m'a dit qu'elle essaye de dessiner de manière figurative des enchevêtrements d'histoires, d'émotions, en essayant de rendre leur complexité. Si vous allez sur son site, vous verrez qu'elle incorpore beaucoup des animaux dans son travail. Elle a aussi remarqué que son dessin est devenu de plus en plus spontané au fil des ans. Elle dessine vite, quitte à commencer de multiples fois jusqu'à trouver le bon geste, le trait juste fait en quelques secondes, légèrement en déséquilibre. Donc si vous allez sur le site, vous verrez que ces dessins sont faits en forme de tracés, de contours, assez libres, Et on retrouve cette liberté que je trouvais aussi dans les dessins de Michaud. Mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, Marion et Damien sont installés à Berlin, où ils se sont rencontrés par le biais de la sérigraphie, comme je l'ai dit. Marion m'a dit que Berlin est une ville avec beaucoup d'ateliers, où il est facile d'apprendre, d'échanger, surtout entre sérigraphes, qui est une technique très pratiquée là-bas. De plus, tout un tas de magasins, galeries spécialisées en multiples, donc en copies de sérigraphie, libraires, soutiennent cette production artisanale et lui donnent une vitrine. Ce qui n'est pas forcément le cas en France. Alors, l'intégration à la scène artistique. Marion dit qu'elle se s'empare d'une scène internationale indépendante, pour ne pas dire underground, liée à la musique et à la micro-édition. Des gens qui s'organisent pour montrer leur travail en dehors de circuits de marché de l'art contemporain. Un réseau de salons, zine fair, art book fair, de petites galeries, d'éditeurs et d'artistes de par le monde qui fonctionnent comme une petite communauté solidaire avec un bel esprit de soutien mutuel et d'entraide. Cela leur permet, avec Pas le froid, l'identité artistique qu'elles forment avec Damien Tran, de voyager beaucoup et de rencontrer des gens à l'autre bout du monde. Entre autres, vous verrez sur le site que Marion et Damien sont allés faire une résidence d'artiste à Taïwan. Alors, j'arrive à Henri Michaud. En 2016, Marion a réalisé un livre de 16 pages composé d'illustrations redessinées d'après les descriptions d'Henri Michaud, comme je vous l'ai dit, d'après son livre La nuit remue. Elle m'a confié que ça a été un projet très spontané. Elle était en convalescence suite à une opération du genou et a passé son été allongé sur un canapé à dessiner et à lire. Elle est tombée sur cette série de poèmes d'Henri Michaud, ce à quoi elle ajoute un des rares poètes que je lis, où il décrit des dessins retrouvés dans un de ses tiroirs qu'il a dessiné lui-même. Il ne montre pas les dessins, il fait que les commenter. Le passage s'appelle « Dessins commentés ». Elle a donc suivi les descriptions qu'il en donne et a essayé de reproduire ses dessins invisibles. Quand elle a été à nouveau sur pied, elle a simplement adapté la série de dessins pour en faire un livre sérigraphié qu'elle a imprimé. De même que Michaud ne montre pas ses dessins dans son livre, Marion a décidé de ne pas montrer les descriptions dans le sien. Donc elle n'a incorporé que ses dessins. Et elle a commenté « J'imagine que Michaud aurait détesté une pareille démarche. Je ne voulais donc pas lui faire l'affront posthume de faire figurer ses textes dans un livre qu'il n'a pas choisi. » Alors personnellement, je ne trouve pas que c'est un affront, bien au contraire, ces dessins sont d'une sensibilité et d'une liberté formidable qui reflètent très bien le travail d'Henri Michaud. Un des dessins est ainsi commenté par Henri Michaud. Et Marion m'a donné un des poèmes de Michaud que je vais vous lire. Ce serait bien une flamme, si ce n'était déjà un cheval. Ce serait un bien bon cheval, s'il n'était en flamme. Il bondit dans l'espace. Combien loin d'être une croupe est sa croupe éclatante de panache ardent, de flammes impétueuses. Quant à ses pattes, elles ont des ténuités d'antennes d'insectes. Alors leurs sabots sont nets, peut-être un peu trop pastilles. C'est comme ça qu'il est mon cheval, un cheval que personne ne montera jamais. Et une banderole légère et certainement sensible, dont sa tête est sainte, lui donne une finesse presque féminine, comme s'il se mouchait dans un mouchoir de dentelle. Heureusement que je l'ai dessiné, sans quoi jamais je n'en eusse vu un pareil. Un tout petit cheval, vous savez, une vraie idée, cheval. Beaucoup plus près des brises que du sol, beaucoup plus ferme dans la pure atmosphère, malgré ses pattes de devant posées comme deux crayons, et il rue vers le ciel, il rue des ruades de flammes. Je vous invite donc à aller sur le site de Marion pour retrouver le dessin qui correspond à ce poème. Alors, je voudrais finir sur le sujet de la collaboration, parce que je trouve que Marion fait un travail très intéressant au sujet de la collaboration. Que ce soit avec Damien Tran ou avec d'autres artistes, ou encore donc dans cette résidence qu'elle a faite à Taïwan, ou encore à titre posthume avec Henri Michaud. Et je lui ai demandé comment elle gérait la collaboration. Elle m'a expliqué qu'elle fait des allers-retours entre collaboration et travail personnel, notamment avec Damien. Ça va et vient, ce va-et-vient lui permet de ne pas tomber dans la routine et de bousculer les acquis et les méthodes. Elle dit que Michaud n'a pas eu le choix. C'est une collaboration forcée. Donc, elle a eu la pleine maîtrise. Et à ce sujet, elle dit « Je parlerai plus d'inspiration que de collaboration, voire d'appropriation sans vergogne. » Quand Marion collabore avec des gens, elle y met beaucoup plus de tact. Ensemble, ils créent un espace de négociation, un terrain commun, ou construire à plusieurs quelque chose de façon à cohabiter, coexister, sans s'étouffer. Cela ne se fait pas toujours sans tension, ni eux, et ça chamboule la notion de style, d'individualité, de personnalité artistique. Et je voudrais finir par vous signaler qu'en ce moment, Marion et Damien préparent une exposition sous le nom de Pas le froid, en août, à Berlin. Et pour l'occasion, Marion s'est mise à la peinture grand format. Donc j'ai hâte de voir son travail en ligne.
On y va.
Bah oui. Bah toi, tu pourras peut-être, Blandine, puisque tu vas être en Europe à la fin de l'année. La série pourrait s'intituler, donc je ne pense pas que le nom est fixé, Ravines. Je ne sais pas en fait si elle a écrit en anglais ou en français. Marion explore les petits moments de découragement, les minuscules failles dans lesquelles on tombe parfois la nuit quand on réfléchit dans son lit. Et elle essaye aussi de trouver des images pour contrer la tentation paralysante du défaitisme. Ouais. Alors donc là, je vous invite vraiment à découvrir son travail et cette prochaine série de peintures qui va sortir en exposition à Berlin. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir leur site paslefroid.net et commander vos éditions limitées et de leurs illustrations parce que ça en vaut vraiment la peine.
On mettra le lien sur la page Facebook.
Bien sûr.
Le ciel du spermatozoïde. Le physique du spermatozoïde de l'homme ressemble étrangement à l'homme, à son caractère, veux-je dire. Le physique de l'ovule de la femme ressemble étonnamment au caractère de la femme. L'un et l'autre sont très petits. Le spermatozoïde est très, très long et véritablement saisi d'une idée fixe. L'ovule exprime l'ennui et l'harmonie à la fois. Son apparence est de, presque une sphère. Tous les spermatozoïdes ne sont pas comme celui de l'homme, tant s'en faut. Celui du crabe, et davantage encore celui de l'écrevisse, ressemble à la corolle d'une fleur. Ses bras souples, rayonnants, ne semblent pas à la recherche d'une femelle, mais du ciel. Cependant, étant donné la reproduction régulière des crabes, on suppose bien qu'il en va autrement. En fait, on ne sait rien du ciel du crabe, quoiqu'à bien des gens, il soit arrivé d'attraper des crabes par les pattes pour mieux les observer. On sait moins encore du ciel du spermatozoïde, du crabe.
Ça vient de quel recueil, celui-ci ?
La nuit remue. Et c'est amusant en fermant, parce que je lis d'un livre de la Pléiade. En le refermant, je me suis dit, ça m'a fait penser aux espèces de petits micelles qu'on trouve dans les églises, la Pléiade. Ça m'a fait penser à ça. Je le repliais religieusement, de surcroît.
Et c'est sur ce modèle qu'ils ont été inventés.
Ah bon ? Et petite parenthèse aussi, Michaud ne voulait pas être dans la Pléiade. Il ne voulait pas être édité en poche, parce qu'il ne voulait pas être lu par trop de personnes. Il ne voulait pas être édité par la Pléiade, dans la Pléiade, parce qu'il ne voulait pas être dans une boîte.
Donc, donc là, on a tout fou.
Donc
là.
Voilà, le voici en boîte.
Il est en boîte et en
et
poche.
Il est en poche également.
Bon.
J'ai fait des recherches sur sa consommation de drogue, parce qu'il fait partie des écrivains qu'on associe le plus volontiers avec les drogues, avec Burroughs, avec Huxley, Quincy, Baudelaire. Mais en fait, pour ce qui est de son cas, c'est en fait une sorte de non-événement, parce qu'il n'a pas fait, la drogue n'a pas eu d'effet dans une sorte de révélation à lui-même. En lisant ses textes, pour être précis, on ne verrait pas la jointure, la différence entre un texte écrit sous influence et un autre écrit à jeun. Il s'est servi de la drogue de façon assez délimitée dans le temps. D'ailleurs, il est venu du tard dans sa biographie que tu as lue précédemment. Il dit qu'il a touché pour la première fois la mescaline, qui est une sorte de LSD, ou enfin, en tout cas aux effets comparables, à l'âge de 57 ans, donc sur le tard vraiment. Il a pris ses drogues sous contrôle médical pour ne pas en être écrasé par les effets, et il s'en est servi comme une sorte d'extension pour partir à la découverte de lui-même. C'était un buveur d'eau. Il avait dit à un moment dans Misérable Miracle, un de ses recueils écrits sous mescaline, qui c'était un buveur d'eau. Il ne buvait jamais d'alcool, il ne prenait pas d'excitant, pas de café, pas de tabac, même pas de thé. Donc c'était pas un drogué, ou plutôt il était né drogué. C'était quelqu'un qui secrétait ses propres stupéfiants. Il avait peu, et on est loin du anywhere provided it's out of this world de Baudelaire, ou alors de Huxley qui parlait de son besoin de contes chimiques hors du moins intolérable et du milieu repoussant. Il n'y avait pas besoin d'échappatoire. Il avait écrit ailleurs, c'est celui-ci cette fois-ci dans La connaissance par les gouffres, qu'il avait écrit là plutôt sous influence du hashish. Les drogues nous ennuient avec leur paradis, qu'elles nous donnent un peu de savoir. Nous ne sommes pas un siècle à paradis. Et donc il les a toujours pris sous contrôle médical. Il les a tout essayé. Il avait commencé par l'opium, qui lui avait pas donné satisfaction en ceci, qu'elle lui apportait trop de satisfaction, que ses nerfs s'en trouvaient repus, que ça le vidait de sa volonté. Il était emporté par une vague de bien-être qui n'était pas du tout propice à la création.
Alors on se demande s'il se sent pas mal dans ce genre d'état, justement. maintenant.
Oui, oui, oui. Donc, il déteste ça. Oui, il déteste ça. Il disait, oui, il y a trop de contentement, trop de satisfaction, ça en devient embarrassant à la fin. Et mes nerfs sont étouffés, alors que me reste-t-il? C'était l'idée. Il faut que l'intelligence reste debout, qu'elle reste alerte. Il avait retrouvé un effet similaire dans les terres, une sorte de sentiment océanique qu'on trouve dans l'amour. Mais, l'amour, c'est la drogue, qu'est-ce que c'est sinon un raccourci quoi, vers ces effets provoqués si rarement par les hasards de la vie. Et oui, il en aimait le pouvoir de l'éther à faire disparaître le jeu. De se dépouiller, de grelotter dans le vide, disait-il, dans le tout, pour atteindre l'annihilation, une sorte de paix en contact du grand tout. Il avait essayé le hashish aussi, le hashish dont il aimait le pouvoir à donner une présence réelle aux images. Il lui suffisait de regarder la photo d'une femme chérie pour que d'un seul coup elle prenne vie, elle prenne chair. Et donc sur le tas, à 57 ans, il aborde sa drogue pas de prédilection. Il a un rapport assez conflictuel à cette drogue parce qu'il la déteste. Il en parle en mal au début de Misérable au miracle. Il parle de grotesque. Elle dit qu'elle est radoteuse, qu'elle manque de grandeur. C'est de la verroterie. C'est rose, stupidement de rose. On croirait de la poésie surréaliste.
Il a aussi, il a cette approche-là par rapport à la vie aussi. Il est quand même désabusé sur l'ensemble, que ce soit sur les drogues, mais
ah oui.
ses commentaires sur la vie ressemblent à ça aussi. Ils sont le vitriol attaque un peu tout. Il attaque tout autour de lui, que ce soit les expériences ou les. Le voyage en Équateur, c'est la même chose. C'est le même genre de commentaires. Enfin bon,
c'est la bibloterie. Je crois que beaucoup de ces commentaires-là se posent volontairement en contre du surréalisme.
D'accord. Ouais.
Dont il détestait les images toujours un peu jolies, faites de pierres précieuses et de couleurs exotiques. Mmh. C'est le reproche qu'il faisait à l'écriture automatique de tomber jamais sur de l'obscène. On libère l'inconscient et comme par hasard, comme de bien entendu, l'imagination se pose sur un papillon aux belles formes plutôt qu'un truc. Il y a tricherie. Mmh. Et lui détestait la tricherie. Je vais vous lire un chapitre de Misérable Miracle où il parle de la mescaline. La mescaline diminue l'imagination. Elle châtre l'image, la désensualise. Elle fait des images 100% pures. Elle fait du laboratoire. Les miennes, comme celles de beaucoup, comme celles des non-scientifiques, vivent habituellement dans les odeurs, les bruits, les contacts, la chaleur, la chair et se mêlent à tout. Elle, la mescaline, fait des images si exactement dépouillées de la bonne fourrure de la sensation et si uniquement visuelles qu'elles sont le marchepied du mental pur, de l'abstrait et de la démonstration. Aussi est-elle ennemie de la poésie, de la méditation et surtout du mystère. Elle en offre sans doute, aussi, etc. etc. C'était une grande difficulté qu'il avait de trouver le dosage exact qui lui permettrait de provoquer des images sans se laisser emporter par une vague de sentiments où tout deviendrait trouble. Mais en faisant cette description, on décrit son approche de la poésie, parce que c'est quelqu'un qui a laissé libre cours à son imagination. C'est quelqu'un qui a fait une pratique quotidienne de l'écriture automatique, ce jeu surréaliste qu'il a essayé de mettre en œuvre accompagné par les drogues, mais le problème qu'il a le plus souvent rencontré, c'était qu'une image qui lui plaisait, qu'il voulait coucher sur papier, était aussitôt poussée par une autre image avant même qu'il ait le temps de l'écrire. Et avant même qu'il ait le temps de la définir, elle se poussait les unes contre les autres, comme dans une sorte de petit couloir étroit. l'écriture ne son esprit fonctionnait à 100 à l'heure, mais son intelligence pouvait pas suivre et encore moins sa main, et c'est ce qui a donné lieu à une sorte de calligraphie où la poésie se transforme en dessin, où les mots se transforment en une sorte de petits troupeaux d'insectes pris de panique. Et c'est chouette à voir. Je vous invite à lire. Donc la répète est content, mais à le lire dans l'édition de Gallimard où il est reproduit. Je vais faire quelques textes qu'il écrivait donc sous emprise et qui.
On va vous mettre la photo parce que ça vaut vraiment le coup là.
On va vous la poster.
Alors je vais essayer de décrire ce que je vois sur la page, mais c'est des gribouillis. Alors si vous pensez à une écriture de pattes de mouche. Et puis ça part en couille un peu, hein. Ça part en petit gribouillis.
C'est génial, hein.
Oui.
On vous met ça sur
internet. Tu nous mets ça, Blandine? Moi, je trouve que
c'est
moi, ce que je ne sais pas si la drogue, ça a été, comme tu dis, c'était pas, il n'était pas vraiment drogué. Moi, je pense, j'ai toujours vu Michaud comme quelqu'un qui avait une sensibilité, pas sur une sensibilité sur la beauté, mais une sensibilité sur le brut, sur le vrai. Je ne sais pas si c'est les deux guerres qu'il a vécues, si c'est les voyages à l'étranger, si c'est la vie sur les bateaux, si c'est les deuils qu'il a vécus, mais il refusait la jolie poésie, la poésie où on danse, on fait chanter des mots. Il voulait des choses ancrées dans une réalité, pas toujours esthétique, pas toujours... camouflé de jolis mots, de jolies roses. J'ai trouvé chez lui, et c'est je crois pour ça qu'il plaît autant aux jeunes adultes, un sens de la réalité et de ce monde qui l'entoure, qu'il n'essaie pas de cacher. Au contraire, il le prend à part entière comme il est, quoi. Et c'est comme ça qu'on l'appréhende aussi à cet âge-là. Et moi, c'est ce que j'aimais dans son travail. C'est ce côté brut, je vais rien vous cacher, je vais vous dire comment j'appréhende le monde, et c'est pas toujours beau.
Et c'est un explorateur aussi, parce que tu dis, il n'aime pas les jolis mots, ça va beaucoup plus loin que ça. Il va, et c'est pas qu'il n'aime pas ça, c'est qu'il rentre dans le langage, il le déstructure, il va jusqu'à le démanteler carrément.
Il n'a pas peur.
Trouver des mots qui n'existent, créer des mots qui n'existent plus, qui ont presque du sens quand on les lit, en jouant bien entendu sur les sonorités. C'est un explorateur, comme tu le disais, Romain, dans les drogues, un explorateur de voyage, explorateur de l'imaginaire. Il n'y a pas un coin de la nature humaine qu'il n'explore pas. Le dessin, c'est la même chose.
Oui.
C'est une constante recherche, une constante exploration et un constant refus de rentrer dans justement quelque chose qui est complètement enfermé, tel que les surréalistes, par exemple, ou n'importe quel style. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, refus de rentrer dans un style littéraire particulier, refus. Et c'est quelque chose dont il était extrêmement fier. Il raconte notamment que... alors, on n'a aucun... c'est aussi quelqu'un qui n'a jamais... j'en parlerai après, dont on n'a pas d'image. C'est-à-dire qu'on a un tout petit extrait d'un truc télévisé où on le voit 3 minutes, il va à une conférence, je ne me souviens plus sur quel écrivain c'était. Sinon, il n'a jamais parlé, hein, il n'y a pas d'enregistrement de qui il est, etc. Il refuse vraiment de parler de son travail, son travail parle pour lui. Et donc, c'est une exploration... et c'est ce qui est fascinant chez lui, je trouve. C'est cette espèce de recherche... infini.
Et par la lecture aussi, je me souviens qu'il il collectionnait les dictionnaires, les dictionnaires de psychiatrie, de zoologie. Il n'a jamais cessé de s'intéresser à tout.
Mais ancré dans une réalité.
Oui, tout à fait.
C'était pas un romantique.
Dans une réalité du corps, beaucoup de ses poèmes sont vraiment, c'est le corps qui parle, c'est le corps qui se balade.
C'est le corps qui appréhende le monde.
Il y a friction.
C'est
aussi dans la chair.
Mais ce que j'aime bien aussi, ce que tu dis, c'est qu'il n'aime pas du tout les fioritures. Il se fout du monde, c'est souvent. Il aime bien se foutre de la gueule du monde. Il utilise, il parle de choses insensées sur un ton très sérieux, dans un style très sérieux qui déstabilise sans arrêt. Il singe.
Il déstabilise, c'est vrai.
Et il singe le sérieux, il singe le le conventionnel et même le non conventionnel du type surréaliste, qui est encore plus conventionnel que le conventionnel. Il est vraiment, il est révolutionnaire. Révolutionnaire, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il est, il casse toutes les frontières.
Mais il s'est jamais assoupi sur son travail. Non. Il a toujours été dans une pratique de recherche, ouais. Je trouve. Il s'est toujours poussé. Alors la drogue, ça a été un moyen aussi de se pousser, mais il s'est toujours, même dans ses dessins, il s'est poussé. Il fait attention à ne pas tomber dans l'esthétique. Il fait attention à ne pas tomber dans un groupement de style. Son travail, c'est pareil. Il pousse constamment. On passe d'un livre à un autre où il explore des dimensions. Il explore une façon de s'exprimer. Il explore des sujets. Mais il y va pas, comme tu dis, dans les fioritures, à la romantique, comme certains poètes.
Il ne pose pas. Et je crois qu'on peut dire que les surréalistes posent quelque part. Il y a une espèce de pose dans l'écriture, même si elle se veut.
C'est un côté dramatique, voilà. Un peu.
Très théâtral.
Très théâtral.
Il y a un dogme, il y a un pape qui s'appelle André Breton, et puis ça s'excommunie, et puis c'est un groupe, et puis ça, ses règles, ses rivalités.
Alors que Michaud a toujours été un agent libre, quoi. Toujours.
Dont acte, on va vous mettre en contact direct, privilégié, vous allez sentir les textes, on va vous en lire quelques-uns, mais avant, musique, à tout de suite.
C'était quoi cette chanson, Romain ?
Ça, c'est Nino Rota, à ma corde, musique de film. Je vais commencer.
Vas-y.
Donc, c'est. Je vais vous lire un poème en prose, donc. Envoûtement, qui est tiré de l'espace du dedans, sont des pages choisies, c'est un recueil de recueils. Envoûtement. Mon ami que j'ai perdu, vit toujours à Paris. Elle marche et rit. Je m'attends qu'un jour prochain, sa mère vienne me trouver et dise « Oh monsieur, je ne sais pas ce qu'elle a, on ne trouve rien d'anormal et pourtant ce mois, elle a encore perdu 4 kilos. » Quand elle n'en pèsera plus que 55 livres, alors sa mère viendra me trouver, qui a toujours faim de ne s'occuper de moi comme d'un homme négligeable, et d'un moment, sa mère viendra me trouver et me dira « Monsieur, elle ne pèse plus que 55 livres, peut-être pourriez-vous faire quelque chose pour elle ?» Le mois suivant, « Monsieur, c'est 24 kilos à présent qu'elle pèse, c'est tout à fait grave, mais moi, 24 kilos, revenez à 14. » Elle revient à 14, c'est 17, mais elle dit 14 en raison de la grande inquiétude qu'elle a et que justement à 14, ce soit la mort. Elle revient et me dit « Monsieur, elle meurt. N'était-elle donc rien pour vous ? Madame, soyez sans crainte, elle ne disparaîtra pas toute, je ne veux pas la tuer. Même avec 2,5 kilos, elle continuera à vivre. Mais cette mère, que j'ai toujours détestée, se jeta sur moi. Il n'était pas possible que ce fût sa fille. Sa fille devait être morte. C'était une autre, assurément, faite par ruse et entretenue par cruauté. Elle s'en alla cherchant ses idées. Voilà. C'est très curieux, c'est bizarre. Ça raconte une histoire, en même temps que ça rencontre beaucoup d'autres, avec des mots collés. On sent quelque chose qu'on a tous vécu, mais on ne sait pas exactement quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'idée de la poésie. À ton tour, Blandine.
Moi, je voulais vous parler un petit peu de Plume. Plume, c'était mon amour d'étudiante, d'adolescente. Quand j'ai découvert Michaud, ça m'avait fait rire aux éclats. Alors, comme tu le disais, en le relisant, j'ai pas ri aux éclats, mais ça m'a fait sourire.
Tu as souri aux éclats.
J'ai souri aux éclats, voilà. Il a écrit en 1930, juste après son voyage en Équateur, parce qu'il a écrit. Il a beaucoup voyagé. Il a été d'abord matelot, donc il a voyagé, c'était son boulot pendant une époque. Il a fait un premier voyage accompagné d'écriture avec un journal qui s'appelle Équador. Où alors là, c'est un. Il découvre. En fait, ça a été une déception qui a miné toute son aventure sud-américaine. On sent que c'est un voyage qui lui pèse. En revanche, on y trouve sa volonté de s'arracher à lui-même, ainsi qu'à ses origines. Et aussi ce qu'on disait en début d'émission, son désir de coïncidence du sujet avec le monde extérieur, qui cohabite en même temps avec un repli sur le soi solitaire. Cette espèce de cohabitation qui va durer tout au long de sa vie, en fait, et tout au long de ses voyages, aussi bien voyage dans la drogue, que voyage dans l'espace ou que dans l'imaginaire. Donc d'ailleurs, avec Équador, il y a l'idée d'une écriture, mais une écriture qui part pas sur un mauvais pied, mais en tout cas au début, dans la préface d'Équador, il se dit un homme qui ne sait ni voyager, ni tenir un journal, a composé ce journal de voyage. Donc, même si dans ce voyage, il y a une espèce de voyage vers l'inconnu qui permet une purification, qui permet à l'individu de reprendre son identité sur des bases nouvelles, il est déçu, il y a l'idée d'un échec de ce voyage, mais en même temps, ça devient un temps fondateur de tout un parcours créatif. Il comprend que son véritable parcours se conduit à travers l'imaginaire, et c'est pas un hasard si Plume arrive après ce voyage. Donc, en tout cas, en termes d'écrit de voyage, juste pour faire une petite parenthèse, il écrit ensuite à Barbare en Asie en 1933, qui est un voyage qui a été beaucoup plus, avec lequel il était beaucoup plus en adéquation, on va dire. Et puis en 1946, un autre qui s'appelle Ailleurs, et là qui est un récit imaginaire, voilà, qui est là un voyage.
J'ai adoré Ailleurs.
Donc juste pour, je voulais vous lire un petit extrait de Plume et vous dire rapidement avant. Donc il a été publié en 1930 par Pollan. Il y a eu une écriture définitive qui est sortie en 1838. Et donc Plume, on dit souvent qu'il y a la plume de l'oiseau, la légèreté, puis la plume de l'écrivain. Donc la fragilité, la légèreté, l'envol, et puis donc c'est ce symbole de l'écrivain. Plume, c'est un anti-héros. C'est aussi l'alter ego de l'écrivain. Il est passif, il est faible. Alors ça, c'est peut-être parce que ça lui ressemble peut-être pas. Oui, ça lui ressemble peut-être un petit peu aussi. Ce sont 13 poèmes en prose. Ils font moins d'une page chacun. Et juste une petite citation, il nous dit « Avec Plume, je commence à écrire en faisant autre chose que de décrire mon malaise. Un personnage me vient, je m'amuse de mon mal sur lui. Je n'ai sans doute jamais été aussi près d'être un écrivain. Mais ça n'a pas duré. Il est mort à mon retour de Turquie. Aussitôt à Paris, je redeviens moi-même. » Voilà. Donc je voulais vous lire, à moins que tu le lises, Romain. Tu veux que je lise ?
Oui, parce que je le déflorer.
Vas-y, Blandine. Ouais. Non.
Alors. Il ne peut pas s'empêcher. Alors,
non, il ne peut pas.
Un homme paisible, donc c'est le premier poème de Plume, c'est court. Hein. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait à ses côtés. « Bah, la chose est faite, pensa-t-il. » Peu après, vous noterez l'accent l'accent belge quand j'ai dit ça, non ? Vous avez noté, non ?
Non, c'était que dans ta tête.
Ah bon, d'accord. C'était si épais que je n'entendais rien derrière.
Bon, bref. Alors, donc, la chose est faite, pensa-t-il. Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il y arrivera sûrement avant nous. Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux. Mais puisqu'il est déjà passé, et il se rendormit. Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point que l'on ait trouvé partagée en 8 morceaux, sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu ? Voilà le mystère, toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume, et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter ? Excusez-moi, dit-il, je n'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit.
C'est bien là, je crois que l'esprit est là. Peut-être un tout petit dernier pour la route, si il reste 40 secondes.
Pour la route.
C'est Oli. Oli. La maladie que j'aime condamne à l'immobilité absolue, Oli. Quand mon ennui prend des proportions excessives et qui vont me déséquilibrer si l'on n'intervient pas, voilà ce que je fais. J'écrase mon crâne et l'étale devant moi aussi loin que possible. Et quand c'est bien plat, je sors ma cavalerie. Les sabots tapent clair sur ce sol ferme et jaunâtre. Les escadrons prennent immédiatement le trot et ça piaffe et ça rue. Et ce bruit, ce rythme net et multiple, cette ardeur qui respire le combat et la victoire enchante l'âme de celui qui est cloué au lit et ne peut faire un mouvement. Voilà. On va se quitter là-dessus. Mesdames, très belle émission. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine.
Relisez Michaud.
Bonne semaine, lisez Michaud.
On mettra toutes les références sur le site, à très bientôt, ciao.
Au revoir. Ciao.